C'est le branle-bas de combat dans les entreprises. Il faut remettre en marche ordinateurs et machines, organiser le nettoyage régulier des locaux, dresser des cloisons dans les open space, faire des stocks de masques et de flacons de gel hydroalcoolique, alors que le ministère du Travail dévoile aujourd'hui son protocole de déconfinement, sorte de guide pratique pour organiser le retour des salariés à partir de lundi prochain. Même si le gouvernement insiste, le télétravail doit rester la règle quand cela est possible. Mais pour celles et ceux qui vont donc retourner au bureau la semaine prochaine, la vie ne sera plus tout à fait comme avant, Fabien Cazot.
La règle d'or, c'est pas plus d'un salarié pour 4 mètres carrés de bureau. 4 mètres carrés parce que pour être sûr qu'un mètre de distance soit respecté entre chacun, il faut 1 mètre devant et derrière, 1 mètre à droite et à gauche, soit un carré de 2 mètres de côté et donc de 4 mètres carrés de superficie. Il va donc falloir réviser les tables de multiplication et sortir le décimètre. Pas plus de 2 personnes dans un ascenseur de 8 mètres carrés, pas plus de 10 personnes dans un bureau de 40 mètres carrés. Aux règles de distanciation s'ajouteront les règles sanitaires. Les employeurs seront invités à désinfecter tout ce qui peut transmettre le virus, jusqu'aux interrupteurs, aux boutons d'ascenseur et aux poignées de porte. D'ailleurs, il faudra les laisser ouvertes le plus possible afin d'éviter d'avoir à les manipuler. Des sens de circulation avec stickers posés au sol pourront être mis en place si besoin. En revanche, pas de contrôle systématique de la température corporelle à l'entrée des locaux, ni de dépistage automatique imposé à l'ensemble des salariés.
Dans les écoles aussi, le protocole est strict pour permettre le retour progressif des enfants. La date du 11 mai est d'ailleurs intenable et irréaliste, estiment 316 maires d'Île-de-France, dont la maire de Paris, Anne Hidalgo. Ils ont écrit au chef de l'État pour demander que cette réouverture soit repoussée dans les départements classés rouges. Une inquiétude partagée par les syndicats enseignants qui évoquent un possible recours au droit de retrait si les conditions sanitaires ne sont pas réunies. Nous y reviendrons en détail dans le journal de 8 heures. Cette semaine sera aussi celle du retour des Franciliens, exilés donc depuis cette semaine à la campagne. Plus d'un million de personnes ont choisi de quitter l'Île-de-France pour vivre le confinement dans de meilleures conditions. Certains se réjouissent de rentrer à la maison, d'autres s'inquiètent un peu. C'est le long format de ce 7 heures, il est signé Sébastien Sabiron.
Je compte rentrer à Paris le plus tôt possible.
À condition de pouvoir trouver un billet de train, s'inquiète Fanny, consultante, installée à Caen depuis le début du confinement et qui commence un peu à trouver le temps long.
Quand ça fait quasiment 2 mois qu'on n'est pas chez soi et qu'on est avec ses parents en plus à mon âge, ça peut être un petit peu long. Et le télétravail, c'est quand même difficile de faire la coupure entre la vie professionnelle et la vie privée, même si je suis très bien ici.
Incertitude pour son collègue Vincent, confiné avec femme et bébé dans une maison de famille en Charente-Maritime. La crèche les a déjà prévenus qu'elle ne pourra accueillir qu'une partie des enfants d'ici septembre.
On ne sait pas du tout comment ça va se passer le 11 mai. Est-ce qu'on va rester ici parce que la crèche n'ouvre pas? Est-ce qu'on rentre quand même dans un petit appartement avec un enfant? Ça va être aussi compliqué. On attend de voir ce que nous dit aussi l'employeur de ma compagne. Peut-être qu'elle, elle sera obligée de rentrer quand même.
À cela s'ajoute parfois l'anxiété de retrouver la ville et ses transports en pleine pandémie. Alexandra, journaliste parisienne, est toujours en Bourgogne où elle passait le week-end avant le début du confinement.
Je suis un peu inquiète dans la mesure où je me dis quelle vie est-ce que je vais retrouver, comment se protéger les autres, faire bien attention. Quand on a été un petit peu comme ça, isolé dans un cocon, à la campagne, pendant plus de 6 semaines.
Angela s'apprête à parcourir 1000 km jusqu'à Marseille avec ses 2 enfants et son futur ex-mari. En instance de séparation, le couple avait préféré se confiner dans une grande maison normande.
On a un sentiment un peu partagé entre la joie de retrouver Marseille et le quotidien, comment ça va se passer avec les enfants, si on va pouvoir sortir, si on va pouvoir aller au parc. Pas mal d'interrogations.
Tous disent malgré tout leur impatience de retrouver une vie qu'ils espèrent la plus normale possible.
Reportage de Sébastien Sabiron. En ce qui concerne les transports, effectivement, la SNCF et la RATP ont écrit au gouvernement pour demander notamment des renforts de police afin de réguler les flux de voyageurs et dresser des amendes en cas de non-port du masque. Le ministère des Transports assure que des discussions sont en cours. Les masques, justement, ils arrivent, ils sont là. Les masques chirurgicaux sont vendus en supermarché à partir d'aujourd'hui. 95 centimes maximum l'unité. Les boîtes de 10, 20 ou 30 ne seront pas mises en rayon pour éviter les achats compulsifs, mais délivrés au compte-goutte par les hôtesses de caisse ou à l'accueil.
France Inter, 7h06, un premier cas de Covid-19 en France, Agnès, dès le 27 décembre.
C'est l'hypothèse développée par le chef du service réanimation des hôpitaux Avicenne de Bobigny et Jean Verdier de Bondy. Officiellement, les premiers premier cas remonte à fin janvier, mais les équipes du professeur Cohen ont repris des tests PCR menés en décembre et janvier sur plusieurs patients atteints de pneumonie, et l'un d'entre eux s'est révélé positif au Covid-19. Il s'agit d'un homme d'une cinquantaine d'années qui n'avait pas voyagé au cours des mois précédents. Les explications du professeur Cohen, joint par Véronique Julia.
Le patient a été hospitalisé chez nous le 27 décembre et donc c'est à ce moment-là qu'il a eu le test de PCR à la recherche d'une grippe au départ. Et nous avons repris son dossier avec le scanner thoracique qui montrait des signes qui pouvaient totalement aller avec le Covid-19. Le PCR, on l'a refait deux fois en plus pour être sûr qu'il n'y ait pas d'erreur. Et les deux fois, c'est révélé positif. L'interrogatoire a montré deux choses. D'abord, que ces deux enfants ont fait la même infection. Sa femme n'a pas fait d'infection. Par contre, sa femme travaille dans un supermarché au rayon poisson. Donc, c'est bien poisson en Chine. C'est peut-être un poisson chinois avec qui elle était en contact. Et en fait, non, on s'est aperçu qu'elle travaillait juste à côté des stands de la sushi où il y avait des personnes d'origine asiatique qui travaillaient. Et elle avait des contacts importants avec eux. Donc, notre idée était que c'est de la patiente, la femme, a été contaminée de façon asymptomatique et qu'elle a transmis à son mari et à ses enfants le Covid-19. C'est maintenant à une instance plus importante de faire l'enquête épidémiologique.
Et l'étude complète menée par le professeur Cohen et ses équipes doit être publiée dans le courant de la semaine. La situation en France continue à s'améliorer. Le nombre de décès et de malades en réanimation diminue. 135 décès au cours des dernières 24 heures et 3819 patients dans un état grave. Le gouvernement a choisi de prolonger l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 24 juillet. Le texte sera débattu aujourd'hui au Sénat, où Édouard Philippe doit également présenter son plan de déconfinement, comme il l'a fait la semaine dernière devant l'Assemblée. Une longue, donc très longue journée pour le Premier ministre au Sénat, Karine Bécard.
Les sénateurs majoritairement de droite ne détestent pas Édouard Philippe. Au contraire, ils reconnaissent que le Premier ministre, un ancien LR, ainsi que Bruno Le Maire à Bercy et Jean-Michel Blanquer à l'Éducation nationale se démènent pour trouver des solutions à la crise. Mais ils préfèrent se montrer sceptiques, voire carrément critique. Et c'est exactement ce qui va se passer aujourd'hui sur trois sujets en particulier. Le premier, sur les fichiers de données médicales personnelles qui pourraient être diffusées. Pour les sénateurs, c'est inacceptable. Deuxième contrariété, la responsabilité pénale des maires. Pas question, le temps du déconfinement, de laisser l'État se défausser sur les municipalités. Et puis, la majorité au Sénat a l'intention de réclamer également que les maires qui ont été élus en mars dernier soient installés fin mai définitivement. Voilà quelques sujets de discussion. Quant au vote, il n'aura pas lieu dans la foulée comme à l'Assemblée. Non, les sénateurs, eux, ont obtenu de se prononcer demain après un temps de réflexion.
En Europe, l'heure est également au déconfinement progressif. Reprise partielle des cours en Allemagne aujourd'hui. Retour au travail pour plus de 4 millions de salariés italiens. En revanche, en Algérie, de nombreux commerces rouverts la semaine dernière ont été à nouveau fermés ce week-end. Trop de cohue dans les magasins, notamment à Alger. Aux États-Unis, l'épidémie de coronavirus a contaminé plus d'un million de personnes et provoqué plus de 67 000 décès. Donald Trump était l'invité hier soir de la chaîne Fox News. Il a multiplié annonces et promesses. Une émission suivie par le correspondant de France Inter à Washington, Grégory Phillips.
La chaîne Fox News a installé ses studios au mémorial de Lincoln, au cœur de la capitale fédérale. Et c'est avec au-dessus de lui la statue en marbre blanc du 16e président des États-Unis que Donald Trump répond aux questions en vidéo des Américains. L'émission a été intitulée « L'Amérique ensemble, retourner au travail ». Ces 6 dernières semaines, aux États-Unis, 30 millions de personnes ont perdu leur emploi. Mais Trump leur promet ceci. Vous allez trouver un autre travail et vous serez mieux payé. Vous allez voir, la fin de l'année va être formidable. Je sens bien ces choses-là. On a bâti la meilleure économie du monde. Et face au Covid, on a fait ce qu'il fallait faire. On a sauvé des millions de vies. Mais maintenant, il faut retourner, travailler, en sécurité bien sûr, mais le plus rapidement possible. Puis on interroge Donald Trump sur la possibilité d'un vaccin. Je pense qu'on aura un vaccin avant la fin de cette année. Bon, les médecins me disent, vous ne devriez pas dire cela, mais je dis ce que je pense, on l'aura avant la fin de l'année. On pousse beaucoup pour cela. Sous le regard d'Abraham Lincoln, considéré par beaucoup d'Américains comme peut-être le plus rassembleur des présidents, Trump ne peut s'empêcher aussi de faire du Trump et d'attaquer la presse et les démocrates. La présidentielle est dans 183 jours. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
Retour en France avec l'inquiétude une nouvelle fois des médecins et spécialistes. De nombreux malades hors Covid-19 hésitent à consulter en cette période de pandémie. Et Véronique Julia, les salles d'opération restent difficilement accessibles.
Le docteur Franck De Vulder représente le syndicat de médecins spécialistes CSMF. Il est aussi gastro-entérologue dans le Grand Est. Pour tout ce qui peut attendre comme une coloscopie de routine, il a repoussé les examens au mois de juin. Pour ce qui ne peut pas attendre, un patient qui perd du sang par exemple, c'est une urgence, il a toujours pu disposer d'un plateau technique. Son problème, c'est l'entre-deux, ce qui est inquiétant mais pas encore alarmant. Aujourd'hui encore, on lui refuse pour ces cas le bloc opératoire.
Un patient qui a des symptômes digestifs au-delà d'un certain âge, il convient de faire une coloscopie puisque ce diagnostic est un diagnostic d'élimination. Le faire attendre, c'est prendre un risque de passer à côté d'une lésion tumorale, d'un polype de grande taille qui expliquerait ses symptômes.
Idem pour une personne âgée qui aurait besoin d'une prothèse de hanche ou d'une opération de la cataracte. Ça peut attendre bien sûr, mais au prix d'une chute éventuelle entre-temps. Les établissements de santé rechigneraient encore à ouvrir leur plateau technique dans ces cas, par manque notamment de médicaments anesthésiants, dit le médecin.
Moi, dans l'établissement dans lequel je travaille, par exemple, le premier argumentaire, c'est vous savez très bien qu'on est en tension sur les produits anesthésiants. Le deuxième, c'est au cas où il y a une deuxième vague, il faut pouvoir vous arrêter rapidement.
Alors, quelle perte de chance pour les patients en question. Évidemment, ça dépend des cas, mais pour les cancers, par exemple, on estime qu'un mois perdu dans la prise en charge augmente les risques de rechute ou de mortalité de 10 à 20%.
Il est 7h13, on termine Agnès avec l'irrésistible appel de la plage.
Non pas pour lézarder des heures au soleil, mais au moins pour se promener ou faire un peu de sport à partir du 11 mai. C'est ce que réclament des dizaines de milliers de personnes, un mouvement soutenu par de nombreuses personnalités comme le marin Michel de Joyeux ou encore de nombreux élus du littoral français. Jean-Pierre Bimou.
La requête, c'est de retourner sur les plages ou en mer dans les départements classés verts, tout en respectant le principe d'une plage dynamique, comme cela se fait déjà en Australie ou en Espagne. Pas question d'étaler sa serviette et de se serrer sur le sable, mais de s'y promener ou pratiquer des sports en respectant les consignes sanitaires. Et surtout, cela pourrait être un bon test avant la saison estivale, explique la rameuse finistérienne Anne Kéméré.
Si on ne prépare pas en amont ce qui va se passer, c'est là où on va partir à la catastrophe. Et on n'est pas complètement décérébré. Je pense qu'on est aussi, nous, capables de comprendre des consignes.
Liliana Tanguy, députée du Finistère Sud, ne comprend pas pourquoi on ne pourrait pas rouvrir les plages en même temps que les parcs et jardins.
On demande aussi par un souci d'équité et de cohérence que la fréquentation des plages soit autorisée au même titre que les autres espaces de plein air, que sont aussi les parcs et les jardins.
L'ancien skipper et désormais député du Morbihan, Jimmy Pain, souhaite pour sa part que les membres du gouvernement voient le côté positif d'une bonne bouffée d'oxygène dont pourrait profiter une partie de la population mise à l'épreuve pendant le confinement.
Vous savez, je crois que c'est vraiment en haut de la pile, de rien. Quelque chose qui préoccupe beaucoup le gouvernement. C'est des décisions qu'ils auront à prendre toujours avec les maires et toujours avec des préfets. Si jamais les maires disent non, moi je me sens pas capable d'ouvrir la plage, ben elle sera pas ouverte.
Jimmy Pain a prévu d'interpeller le Premier ministre lors des questions au gouvernement demain à l'Assemblée.
Et puis attention, Météo France place 3 départements de la façade atlantique et du sud-ouest, la Gironde, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques en vigilance orange à partir de ce soir pour des orages forts accompagnés de grêles et de vents violents jusqu'à demain matin.
Merci Agnès, c'était le journal d'Agnès Soubiran.